Chapitre 2. Naï Buatong se leva avant l'aube. Elle enfila une robe en coton sans manches, prit le temps de présenter ses respects à son Bouddha personnel dans le Awung Pra, adjacent au séjour, puis sortit sans faire de bruit. L'air estival était doux et elle y humait des fragrances florales sous la senteur des épices. Quelqu'un préparait déjà le petit déjeuner. Naï marchait sans se hâter et regardait de tous côtés pour graver dans son esprit des images qui ne seraient bientôt que de simples souvenirs.
« C'est le dernier jour, »
pensa-t-elle.
« Le moment est venu. »
Elle prit sur la droite une rue pavée qui conduisait dans le quartier commercial de Lam Phun. À part quelques cyclistes, tout était désert. Elle approcha d'un temple et croisa deux bonzes en robe safran qui portait une grande urne en métal. Comme tous les matins, ces moines comptaient sur la générosité de la population pour subvenir à leurs besoins. Une femme sortit sur le seuil d'un magasin et déposa un peu de nourriture dans leur récipient.
« Ils ne possèdent rien, »
se dit Naï.
« Pas même leur robe. Et ils sont malgré tout heureux. »
Elle récita rapidement le principe de base du bouddhisme.
« La souffrance découle du désir. »
Puis elle pensa à la richesse de sa belle famille qui vivait à Higashiyama, dans la périphérie de Kyoto, au Japon.
« D'après Kenji, sa mère possède tout, à l'exception de la paix de l'âme. Cela lui échappe parce qu'on ne peut l'acheter. »
Le souvenir récent de la grande demeure des Watanabe remplaça l'image de la rue qu'elle suivait. Naï avait été impressionnée par tant d'opulence, et surtout gênée. Ses beaux-parents voyaient en elle une intruse, une étrangère de rang inférieur qui s'était permis d'épouser leur fils en se passant de leur consentement. Sans être agressif, il l'avait placée dans l'embarras en lui posant de nombreuses questions sur sa famille et son éducation. Pour la réconforter, Kenji lui avait ensuite rappelé qu'il ne les suivrait pas sur Mars. Elle s'arrêta afin d'admirer le temple de la reine Shamatevi, le lieu qu'elle préférait dans cette ville et sans doute dans toute la Thaïlande. Des parties de la construction étaient vieilles de 15 siècles, et ces sentinelles de pierre avaient assisté à des faits aussi étrangers au monde actuel que s'ils s'étaient déroulés sur une autre planète. Elle traversa la rue et pénétra dans la cour. Le jour ne s'était pas encore levé, et un point de vive clarté brillait au-dessus du plus haut des Tchédis. Elle reconnut Mars, sa prochaine destination. Âgée de 26 ans, Naï avait toujours vécu à Lam Phun, hormis pendant les 4 années passées à l'université de Chiang Mai. Dans 6 semaines, elle serait à bord d'un énorme vaisseau spatial qui la conduirait vers ce qui deviendrait son foyer pour 5 ans. Une colonie sur la planète rouge. Elle s'assit en position de lotus dans un angle de la cour et tout en fixant la lueur dans le ciel, elle régula sa respiration en prélude à ses méditations matinales. Mais des émotions chaotiques l'empêchaient de suivre le chemin de la sérénité et de la paix intérieure.
Je dois faire le point sur les événements qui ont bouleversé le cours de mon existence sur ce monde avant de le quitter,
comprit-elle. 11 mois plus tôt, Naï Buatong s'était assise au même endroit, avec dans son sac les cubes contenant ses leçons de français et d'anglais. Elle souhaitait préparer les cours qu'elle donnait dans un collège. Avant de se mettre au travail, elle avait lu les manchettes du journal de Chiang Mai. En dernière page, un encart en anglais avait retenu son attention. Médecin, infirmière, enseignant, agriculteur, êtes-vous aventureux, bilingue, en bonne santé? L'Agence spatiale internationale, ASI, chargée d'organiser la nouvelle colonisation de Mars, recrute des représentants des professions citées ci-dessus pour un séjour de 5 ans sur cette planète. Les entrevues se dérouleront à Chiang Mai, le lundi 23 août 2244. Salaire très motivant. pour les dépôts de candidature, composez le 462 62 49 30. Elle avait postulé sans entretenir de grands espoirs, et elle fut très surprise de recevoir 6 semaines plus tard un courrier électronique l'informant qu'elle était convoquée à un entretien et que si elle avait des questions à poser, elle était priée de les formuler par écrit. Elle n'en posa qu'une seule. Une partie importante de son salaire pourrait-elle être virée sur un compte bancaire terrestre? 10 jours plus tard, elle recevait une réponse positive. À Lamphun, le coût de la vie était peu élevé et la rémunération offerte par l'ASI à un professeur de langue dans la colonie martienne correspondait au double de la somme nécessaire aux besoins de son père invalide, de sa mère et de ses 2 sœurs cadettes. Ils avaient vécu tant bien que mal jusqu'au jour où un drame avait frappé sa famille. Nai terminait ses études à l'université quand son père avait été terrassé par une crise cardiaque. Sa mère, peu douée pour les affaires, avait tenté de gérer seule leur petit atelier artisanal et tout perdu. Nai avait dû renoncer à son rêve de devenir traductrice littéraire pour une des grandes maisons d'édition de Bangkok. Elle occupait un poste d'enseignante la semaine et de guide les week-ends. Le samedi précédent celui de l'entretien, elle emmena des touristes à Chiang Mai. Plusieurs Japonais faisaient partie du groupe, dont un jeune homme séduisant d'une 30aine d'années qui parlait l'anglais à la perfection. Il s'appelait Kenji Watanabe et prêtait une vive attention à ses propos. Il posait des questions pertinentes avec une extrême politesse. À la fin du circuit des lieux saints du bouddhisme de la région de Chiang Mai, ils prirent le téléphérique du Doi Suthep pour aller visiter le célèbre temple érigé sur cette montagne. Kenji Watanabe insista pour gravir, tel un pèlerin, le long escalier du sommet au lieu d'emprunter le funiculaire qui prolongeait le téléphérique, puis il posa d'innombrables questions pendant que Nai racontait l'histoire de la fondation de ce temple. Lorsqu'ils furent de retour au pied des marches et que Nai s'assit à l'écart pour boire un thé, il laissa les autres touristes dans la boutique de souvenirs et vint lui dire en thaï « Kaoto des crapes, puis-je m'asseoir près de vous ? J'ai d'autres renseignements à vous demander. Kun pode pasatai dai maika ?» S'en quitte-elle. Pom kao jai pasatai dai nitnoi. Et vous? Anata wa nihongo anashimasu ka?
Nihongo anashimasen. Seulement l'anglais, le français et le thaï. Bien que je comprenne quelques mots de japonais si on le parle lentement. Les fresques qui dépeignent la fondation de ce temple me fascinent. C'est une légende merveilleuse. Mais 2 choses éveillent tout particulièrement mon intérêt d'historien. Ce vénérable bon singalais avait-il pu apprendre par des sources extérieures au royaume de Lanna que la pagode abandonnée contenait une relique de Bouddha? Je doute qu'il ait risqué de se ridiculiser dans le cas contraire. Deuxièmement, que l'éléphant blanc transportant cette relique ait gravi le Doi Suthep et soit mort à son arrivée au sommet est trop beau pour être vrai. Des textes autres que bouddhiques corroborent-ils cette version des faits?
Nai le regarda longuement avant de sourire et de répondre.
« Monsieur, il y a 2 ans que je fais visiter les hauts lieux du bouddhisme de la région, et c'est la première fois qu'on me pose ces questions. Je ne saurais y répondre, mais je peux vous donner le nom d'un professeur de l'université de Chiang Mai. »
Ils durent interrompre leur conversation, car le téléphérique attendait ses passagers. Ils se levèrent et allèrent rejoindre le reste du groupe. Le lundi après-midi suivant, lorsqu'elle se présenta au Duzit Tani Hotel de Chiang Mai pour l'entretien d'embauche, elle fut sidérée d'être reçue par Kenji.
« Je n'ai ouvert votre dossier que samedi »,
s'empressa-t-il de préciser.
« Si j'avais su que vous aviez posé votre candidature, j'aurais renoncé à cette excursion. »
Tout se passa très bien et Kenji la complimenta tant pour son cursus universitaire que pour son travail de volontaire dans les orphelinats de Lamphun et de Chiang Mai. Nai avoua qu'elle n'avait pas un désir dévorant de partir dans l'espace, mais qu'elle était d'une nature aventureuse et que cela lui permettrait de subvenir aux besoins des siens. À la fin de l'entrevue, elle se leva et demanda
« Est-ce tout ? J'aurais une dernière question à vous poser. Savez-vous interpréter les songes ? Je peux toujours essayer. »
Elle se rassit.
Samedi soir, j'ai rêvé que j'étais dans la jungle au pied du Doi Soutep, dont j'apercevais le Tchédi doré à la cime. Je courais entre les arbres quand j'ai vu un énorme python sur une grosse branche. « Où vas-tu » m'a-t-il demandé. « Je cherche mon amie. Elle t'attend au sommet de la montagne. Je suis sorti de la jungle et j'ai levé les yeux sur le Doi Soutep. Mon ami d'enfance Keiko Murozawa s'y tenait et me faisait des signes de la main. Je me suis tourné vers le serpent. « Regarde encore » a-t-il dit. J'ai obéi et constaté que la femme avait changé de visage. Ce n'était plus Keiko, mais vous. Il ne m'était encore jamais arrivé de faire un rêve aussi étrange et net. J'ai pensé que...
Nai frissonnait. Elle avait su comment se conclurait ce songe avant de l'entendre, et elle se pencha vers lui pour dire, en détournant les yeux,
« Monsieur Watanabe, j'espère que vous me pardonnerez mon audace, mais... Les Thaïs disent que ceux qui rêvent qu'un serpent s'adresse à eux viennent de rencontrer la femme ou l'homme de leur vie. J'ai reçu le contrat 6 semaines plus tard,
se souvint-elle.
Les brochures explicatives de l'IC me sont parvenues peu après, accompagnées par le bouquet de Kenji.
Il lui avait rendu visite le week-end suivant.
J'aurais dû vous téléphoner,
s'était-il excusé.
Mais nous revoir aurait été sans objet si vous n'aviez pas été sélectionné.
Il l'avait demandé en mariage le dimanche après-midi et il s'était uni à Kyoto 3 mois plus tard. Les Watanabe avaient payé le voyage de ses sœurs et de ses amis. Sa mère n'avait pu venir, elle devait s'occuper de son mari impotent. Après avoir passé en revue tout ce qui venait de bouleverser son existence, Nai put se consacrer à la méditation. Une demi-heure plus tard, elle était sereine, heureuse et impatiente de découvrir ce qui l'attendait. Le soleil avait grimpé dans le ciel et elle n'était plus seule dans le temple. Elle en fit le tour pour vivre pleinement ses derniers instants passés dans son village natal. À l'intérieur du Viharn, elle déposa une offrande et brûla de l'encens, puis regarda attentivement les fresques. Elle avait sous les yeux le récit de la vie de la reine Chamatevi, son modèle depuis l'enfance. Au 7e siècle, les tribus de la région de Lamphun avaient des cultures différentes et se livraient des guerres incessantes. Leur seul point commun était une légende selon laquelle une jeune reine viendrait du sud sur d'énormes éléphants et réconcilierait les frères ennemis en fondant le royaume d'Aripunchai. Chamatevi n'avait que 23 ans quand un vieux devin qui faisait partie d'un groupe d'émissaires venus du nord reconnut en elle la future reine d'Aripunchai. Jeune et belle princesse des monstres, le peuple khmer qui construirait un jour Angkor Wat, Chamatevi était en outre d'une intelligence rare et très appréciée à la cour. Tous furent surpris lorsqu'elle décida de renoncer à vivre dans l'opulence pour partir vers le nord. Au terme d'un voyage exténuant de 6 mois qui lui fit traverser 700 kilomètres de montagnes, de jungles et de marais, Chamatevi et sa suite atteignirent sur d'énormes éléphants la vallée verdoyante de Lamphun et ses futurs sujets oublièrent leurs différends pour la placer sur le trône. Elle gouverna pendant 50 ans avec sagesse et justice, et le pays passa de l'obscurantisme à une période de progrès social et de grandes réalisations artistiques. À 70 ans, Chamatevi abdiqua et divisa son royaume entre ses fils jumeaux avant d'annoncer qu'elle consacrerait le reste de ses jours à Dieu. Elle fit don de tous ses biens et entra dans un monastère bouddhique où elle vécut dans le dénuement et la piété jusqu'à sa mort, à 99 ans. L'âge d'or d'Aripunchai était terminé. Sur le dernier panneau mural, une femme ascétique montait au nirvana dans un chariot doré, alors qu'une version plus jeune et d'une beauté incomparable de la reine Shamatevi trônait dans la splendeur des cieux à côté de son Bouddha. Agenouillé dans ce temple de Lamphun, Nai Boitong Watanabe adressa une prière silencieuse à cette héroïne d'un lointain passé.
« Douce Shamatevi,
dit-elle,
toi qui as veillé sur moi pendant 26 années, je partirai bientôt comme tu l'as fait, en allant vers le nord et le royaume d'Aripunchai. Par ta sagesse et ton intuition, sers-moi de guide vers ce monde inconnu et merveilleux. »